Oui Impact by GAC, des innovations responsables aux impacts durables. Bonjour et bienvenue sur nos podcasts Oui Impact by GAC. Nous avons souhaité donner la parole à nos clients et partenaires engagés dans une démarche responsable dont les projets génèrent des impacts positifs sur l'environnement et la société.
Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons Terence Béguin, cofondateur de la société Apteus. Bonjour Terence.
Bonjour Karima.
Nous sommes ravis de vous accueillir sur cet épisode de podcast, donc dédié à la société Apteus, qui est spécialisée dans le repositionnement de médicaments. Alors le repositionnement de médicaments, c'est une thématique qui ne parle pas forcément à tout le monde. Je vais vous laisser dans un premier temps de nous définir ce terme.
D'accord, merci Karima de me donner l'opportunité de présenter Apteus et de parler un petit peu du repositionnement de médicaments. Apteus est une société qui cherche des opportunités d'utiliser des médicaments pour soigner d'autres maladies que celles pour lesquelles ils ont été développés au départ, et on appelle ça du repositionnement de médicaments, et on se focalise principalement sur les maladies monogéniques rares.
Merci pour cette précision. Et donc, je vais avoir deux questions. La première, comment définiriez-vous l'aspect justement réellement innovant d'Apteus? Donc, sur quel plan peut-on considérer Apteus comme une réelle innovation aujourd'hui? Et ma seconde question sera, alors à qui s'adressent plus précisément ces nouveaux positionnements de médicaments?
Eh bien, je vais répondre d'abord à votre seconde question. Nous avons développé une technologie et beaucoup de savoir-faire pour tenter d'identifier des opportunités de repositionnement, donc identifier des médicaments qui pourraient convenir à des patients qui sont atteints de maladies rares, pour lesquels il n'existe actuellement pas de traitement, et bien souvent, malheureusement, pas de recherche non plus. Et on a développé un processus qui nous permet, en quelques mois, de regarder parmi tous les médicaments existants dans le monde, si certains pourraient être bénéfiques à ces patients atteints de maladies génétiques rares. En réalité, quand vous êtes atteint d'une maladie génétique, il y a de fortes chances pour que toutes les cellules de votre organisme présentent le défaut génétique, et donc un défaut d'une certaine fonction. Mais seules certaines cellules de votre organisme souffrent de ce défaut. Beaucoup de maladies génétiques touchent le développement du cerveau, par exemple, parce que les neurones sont des cellules fragiles et que le moindre défaut peut vraiment perturber leur développement. Malgré cela, toutes les cellules de l'organisme présentent le défaut en cause dans la pathologie. Et si vous prenez des cellules de peau, par exemple, c'est ce que nous faisons, eh bien vous arrivez à mesurer le défaut que présentent les cellules, toutes les cellules de l'organisme, même si ces cellules de peau ne souffrent pas de ce défaut. Donc nous avons développé la capacité aujourd'hui, en prenant des biopsies de peau, on a réussi à développer une capacité à modéliser la maladie du patient in vitro, et nous venons mesurer le défaut qui est la cause des symptômes chez le patient. Une fois qu'on a réussi à mesurer ce défaut, eh bien on va tenter de le corriger. Et c'est là que notre activité dite de criblage de médicaments commence. C'est-à-dire que nous allons venir tester un à un les plus de 2600 principes actifs de médicaments qui sont déjà utilisables chez l'homme, et on va remesurer le défaut pour voir si ce défaut a été corrigé ou non. Et c'est cette activité qui prend aujourd'hui plus que quelques mois grâce à notre capacité à modéliser assez rapidement la pathologie et surtout à cribler 2600 composés simplement en quelques jours.
Donc seulement en quelques jours pour le coup, parce que j'allais vous dire que 2600, ça doit représenter des mois et des mois de recherche, de tests en tout cas.
Effectivement, le travail a consisté à miniaturiser au maximum et à automatiser au maximum ce criblage. Et donc aujourd'hui, effectivement, les 2600 composés sont testés tous en même temps. Il y a 2600 expériences qui sont réalisées en même temps. Ensuite, bien entendu, il y a un travail de caractérisation de ces médicaments qui ont eu l'effet escompté. Cette caractérisation consiste à mesurer leur puissance. Est-ce qu'ils sont vraiment très puissants? Et est-ce qu'ils sont vraiment très efficaces? Est-ce qu'on va vraiment corriger le défaut pour revenir à une situation normale? Et en fonction de ça, eh bien, on va sélectionner les meilleurs candidats pour poursuivre nos études.
Je vois. D'accord, donc ça, c'est une première phase. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, en première phase, de n'avoir absolument aucun médicament qui pouvait justement poursuivre en seconde phase, qui pouvait être suffisamment efficace?
Effectivement, théoriquement, ça peut arriver. Ça n'est encore jamais arrivé parce qu'on a toujours ce que l'on appelle des touches. Des touches, ce sont des positifs. Ça n'est qu'à la phase suivante qu'on se rend compte que c'était des fausses touches. Mais effectivement, il y a certains projets où aucun candidat médicament intéressant pour le patient n'a été identifié.
Et dans ces situations-là, comment gérez-vous justement cette situation avec le patient, les familles des patients, etc. Parce que je suppose que des moyens financiers ont été investis également en amont, et puis forcément, on a forcément des attentes et quelques espoirs. Comment est-ce que vous revenez vers vos clients, si
En
on peut
fait,
les appeler comme ça?
c'est vrai qu'Aptéus a cette particularité également de travailler très très étroitement avec les patients, même les familles, et puis les médecins qui les accompagnent, bien entendu. On fait très attention de ne pas faire de fausses promesses. Mais finalement, on se rend compte que les familles et les médecins sont tout à fait conscients de ce que peut produire notre approche, comme ce qu'elle ne peut pas produire. Et donc, il n'y a pas de déception. Il y a bien sûr une déception si on ne trouve pas de résultat. Mais l'important pour cette communauté de patients, c'est d'essayer, en fait.
D'accord.
Je pense que ce qui est la véritable détresse de ces familles, c'est l'inaction. C'est l'inaction que les laboratoires de recherche, l'industrie pharmaceutique peut avoir vis-à-vis de ces maladies-là, et c'est ce qu'elles ne veulent pas reproduire. Donc ces familles, elles sont motivées pour promouvoir la recherche, et elle est tout à fait consciente que la recherche peut délivrer quelque chose comme elle peut ne rien délivrer, ou bien délivrer trop tard. Trop tard, c'est-à-dire que on engage parfois, nous, des projets de recherche à un stade où le patient sur lequel on va travailler, qui probablement a une espérance de vie vraiment très courte. Et donc là, pour nous, c'est un challenge également de devoir aller encore plus vite que ce que l'on fait habituellement. Mais voilà, tout le monde est conscient, et on travaille de manière totalement transparente avec tout le monde, tout le monde est conscient de la difficulté, des échecs potentiels et des verrous à lever au cours du projet. Et d'ailleurs, ce projet, il est établi a priori du début. Du commencement du projet. C'est-à-dire que toutes les phases sont écrites, l'association ou la famille sait exactement où on va, quand est-ce qu'on doit délivrer, si on n'arrive pas à délivrer, on rééchange et on revoit les objectifs, etc. Donc c'est une véritable promotion que fait l'association de patients. Et cette promotion, en fait, elle pourrait être faite par également des laboratoires publics, des laboratoires privés. C'est-à-dire que nous, on met au service de la communauté complète notre savoir-faire. Notre philosophie, c'est que le besoin médical insatisfait doit être satisfait, si possible, le plus vite possible et avec des médicaments existants, parce que c'est une manière de rendre cette satisfaction du besoin médical économiquement viable. Parce qu'il y a
Oui.
une vraie problématique, en fait, dans le domaine des maladies rares, c'est la viabilité économique des modèles sur lesquels repose aujourd'hui l'industrie pharmaceutique et les biotech, qui est que les énormes investissements dans la recherche et le développement doivent être compensés par d'énormes retours sur investissement. Et ces énormes retours sur investissement, il y a un paramètre qui en dépend, c'est la taille de la population de malades. Et ces maladies rares sont rares par définition parce qu'il n'y a pas beaucoup de malades. Le marché est donc petit, les retours sur investissement potentiels sont donc la plupart du temps petits. Et donc il y a une discordance entre le modèle économique de l'industrie et du développement de médicaments et puis ces maladies rares. Et c'est ce qu'on essaye de combler. Alors ce n'est pas une solution parfaite, c'est une solution qui est probablement intermédiaire, mais on se doit d'étudier les opportunités qui existent déjà, qui sont là, qui sont à notre portée.
Oui. Tout à fait. Et puis je suppose que, bon, alors parfois, ça n'aboutit pas comme souhaité, mais je suppose que parfois, vous avez également apporté des solutions qui ont été bénéfiques. Est-ce que vous auriez un exemple en ce sens?
Effectivement, on a plusieurs projets dans lesquels on a identifié des médicaments qui probablement pourraient avoir un bénéfice chez le patient. Et à ce moment-là, on a la volonté de tout faire pour le mettre à disposition des patients. Et donc, dans plusieurs de nos projets, le meilleur moyen a été de, en concertation avec le corps médical qui suit le patient, de faire en sorte que il puisse y avoir un usage dit compassionnel du médicament, c'est-à-dire un usage du médicament en dehors de son indication, sans que celui-ci n'ait été redéveloppé et recommercialisé, c'est-à-dire que le médecin prescrit en dehors de l'indication d'origine le médicament au patient sur la base d'un rationnel scientifique qui démontre le bénéfice potentiel, mais surtout qui démontre l'absence de risque ou en tout cas la maîtrise de ce risque. Et quand la balance bénéfice-risque est plutôt positive, eh bien, il y a la communauté médicale qui accepte de prescrire le médicament au patient. Et dans ce cadre-là, Aptéus se positionne comme accompagnateur, si cela est nécessaire, pour plutôt mettre en place un suivi biochimique. C'est-à-dire que nous, on a cette capacité à pouvoir analyser des biomarqueurs dans des échantillons biologiques. Et donc, on vient mettre en place le suivi de ce biomarqueur qui, parfois, peut vous donner une idée de l'efficacité un peu plus rapidement qu'en se basant sur des signes cliniques. Le premier exemple sur lequel on a travaillé chez Aptéus, il s'agissait d'un enfant atteint d'une maladie extrêmement rare, puisqu'à l'époque où le patient a été identifié, il était le seul en Europe. Et donc c'est un enfant qui a eu un développement neurologique très perturbé. Et quand on a regardé dans la littérature, on s'est aperçu que l'âge médian de survie, c'était 7 ans. Et on a commencé à travailler sur ce cas quand l'enfant avait 4 ans. On a donc exactement fait le process que je vous ai décrit juste avant, et on a identifié un produit, et donc on a commencé à se demander est-ce que il serait pertinent d'utiliser ce produit chez cet enfant. Et on a consulté plusieurs médecins, plusieurs chercheurs, on a même été jusqu'à consulter les autorités réglementaires en France, et puis on a abouti à la conclusion qu'il serait probablement pas très risqué d'administrer le produit à l'enfant, et puis on a mis en place ce suivi. Et cet enfant, on n'a pas stoppé la progression de la maladie, mais cet enfant a quand même atteint l'âge de 10 ans, avec des signes, alors pas de guérison bien entendu, mais probablement de ralentissement de la pathologie, mais aussi les signes en imagerie du cerveau par exemple, où on voyait des zones de cicatrisation du cerveau, alors que ça n'avait pas été décrit auparavant. Donc voilà, c'est un cas vraiment très concret de ce que l'on peut faire. Et aujourd'hui, on a d'autres projets où plusieurs enfants reçoivent actuellement un produit. Et finalement, tout le challenge aujourd'hui d'Aptéus, c'est de réussir à mettre en place le suivi nécessaire à la mesure des premiers effets du médicament. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on essaye de... Vous voyez, c'est très customisé en fait. On va vraiment adapter tout le processus au patient, à la circonstance, aux médecins et aux médicaments, bien entendu. C'est ce qu'on aime qualifier, on aime qualifier notre processus de recherche individualisé.
Oui, ça correspond assez, en effet. Et puis quand je vous entends là... Quand je vous entends justement raconter la manière dont vous fonctionnez, ce que vous avez pu rencontrer, etc. en chemin, on sent que c'est quelque chose quand même qui vous anime même personnellement. Et donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie, donc vous, est-ce que ça fait peut-être appel à votre histoire personnelle ou professionnelle, qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller sur ce terrain justement du repositionnement de médicaments dans sa globalité et de créer Aptéus?
Moi, j'ai une formation de pharmacien, donc j'ai commencé à baigner dans le domaine du médicament juste après mon bac. Et ensuite, j'ai poursuivi plutôt dans la découverte de médicaments. J'ai fait un doctorat de chimie. Donc, le métier du chimiste qu'on qualifie de médicinal, c'est de concevoir des médicaments. Et donc, ça a consisté en ma première partie de carrière, à l'époque où j'étais enseignant-chercheur. Et puis, petit à petit, on a envie que ce que l'on fait se concrétise par une réponse à un besoin médical. C'est important pour nous d'avoir une idée de l'utilité de ce que l'on fait en recherche.
Là, vous avez un peu pris, du coup, la chose dans l'autre sens. Vous avez commencé par, justement, le besoin final, l'impact que ça pouvait générer, et puis comment est-ce qu'on pouvait générer cet impact?
Exactement, c'est exactement ça, puisque assez vite, dans mes projets de recherche, j'ai été confronté à des besoins médicaux, et je me suis rendu compte que si je voulais y répondre dans un temps compatible avec la médecine, c'est-à-dire soigner la personne qui a ce besoin aujourd'hui, et pas la soigner dans 20 ans, puisque cette personne probablement ne sera plus là.
Quand j'entends tout ça, je me dis que ça a quand même un coût. Tout ça, il faut pouvoir le financer. Alors, j'imagine qu'une partie est financée par tout simplement les familles des patients, mais qui, ça ne doit pas suffire. Il doit y avoir d'autres moyens de financement. Comment est-ce que vous faites pour...
Eh bien, nous, ce que nous souhaitons, c'est un modèle économique qui nous permette d'identifier des opportunités de repositionnement et d'usage compassionnel pour les patients. Et cette activité, aujourd'hui, elle est quasiment exclusivement financée par les patients eux-mêmes à travers leurs associations. C'est-à-dire que la toute première phase qui consiste à identifier une opportunité d'usage compassionnel, on demande à l'association de la financer, donc de financer la modélisation de la maladie, le criblage et puis la caractérisation des candidats médicaments. Et pour rendre pérenne cette activité, on a quand même besoin qu'Apteus se finance autrement que par la génération de ce chiffre d'affaires. Et ce que nous envisageons dans les prochains mois, c'est de lever de l'argent pour mettre à disposition d'un plus grand nombre de patients deux candidats médicaments qui ont le potentiel d'être redéveloppés et recommercialisés. C'est-à-dire que dans ce travail d'identification de candidats médicaments, nous en avons deux qui méritent d'être redéveloppés. Ce nouveau développement, par rapport au développement d'un nouveau médicament, il va être beaucoup plus rapide, beaucoup moins coûteux et surtout beaucoup moins risqué. Pourquoi moins risqué? Parce que ça n'est pas une nouvelle molécule, ça n'est pas un nouveau médicament. On connaît bien la molécule, on connaît sa toxicité et donc on prend beaucoup moins de risques d'échecs dus à une intolérance, par exemple. Et finalement, la seule incertitude que l'on a aujourd'hui avec nos deux candidats médicaments, c'est leur niveau d'efficacité pour soigner les pathologies que l'on veut soigner. Et aujourd'hui, on est en train de construire ces deux projets, de s'entourer de l'écosystème adéquat, des compétences adéquates, et on va lever de l'argent très prochainement. Et notre intention, c'est de faire d'Apteus et des projets d'Apteus des projets participatifs. Et ce que l'on aimerait aujourd'hui, c'est faire financer ces projets de manière participative. Et donc, faire appel au financement participatif à travers plusieurs plateformes de crowdfunding, comme on dit, et puis aussi solliciter des acteurs qui sont touchés de près ou de loin par ces maladies rares, qui ont soit un proche ou qui travaillent dans le domaine. On peut également solliciter des gens qui ont l'habitude d'investir dans des causes sociétales, comme celles que nous portons, nous, aujourd'hui, comme des fondations, des mutuelles d'assurance. Voilà. Donc on va solliciter toutes ces communautés pour essayer de faire de nos projets des projets participatifs et finalement mutualiser tous les moyens de l'écosystème maladies rares au bénéfice de la recherche et des patients. Et c'est vraiment notre volonté ici de faire participer directement tous les acteurs finalement de l'écosystème.
C'est un très beau projet qui pour le coup a un impact réel, concret et puis en fonction des résultats plus ou moins grands, mais de toute manière, l'impact n'est que positif, même si on n'atteint pas le résultat escompté, on fait quand même avancer d'une manière ou d'une autre la recherche. Et puis, donc c'est forcément un impact positif. Est-ce que c'est un projet qui est en cours, si je comprends bien, qui n'a pas encore été lancé, mais cette plateforme, ou en tout cas cette ouverture à du crowdfunding sera lancée? Est-ce que vous avez une idée dans le temps?
Oui, en fait, on aimerait lancer ce financement participatif avant l'été. Donc, on est en train aujourd'hui de structurer un petit peu la campagne de communication qu'il va y avoir autour de ce projet de financement. Moi, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn et sur Facebook. Comme ça, vous serez avertis du lancement de la campagne. Et l'idée, c'est que l'on puisse communiquer auprès de tous les acteurs de manière efficace pour que cette levée soit couronnée de succès et que l'on puisse continuer notre activité au bénéfice de tous les patients.
Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Et alors, une petite question qui me vient, que j'aurais peut-être dû vous poser au début plutôt, mais pourquoi Apteus d'ailleurs?
Alors Apteus, c'est un nom que l'on a choisi avec mon associé pour n'évoquer strictement rien à personne. Et je pense que si vous me
ça
posez
fonctionne.
La question, comme beaucoup d'autres le font, c'est que ça ne vous évoque rien de particulier. Et c'était un peu notre volonté, et je pense qu'on a réussi aujourd'hui à créer notre image, non pas avec un nom, ni un domaine d'activité, mais vraiment pour ce que l'on fait.
C'est intéressant comme réponse. Très bien. Bon, bah, écoutez, je vous remercie. Merci pour toutes ces informations. Merci pour la réponse à toutes ces questions. C'était extrêmement intéressant. Donc, nous vous invitons de manière générale à vous rendre, si vous souhaitez plus d'informations, donc sur le site d'Aptéus, mais également donc sur les réseaux sociaux, comme vous le disiez, Terence. Voilà, donc des actualités à venir avant et pendant l'été. En tout cas, merci à nouveau pour votre participation à ce podcast. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode très bientôt.
Merci à vous, Karima. Bonne journée.
Nous vous remercions d'avoir écouté cet épisode de notre podcast We Impact by GAC, des innovations responsables aux impacts durables. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme de podcast préférée et à vous abonner à notre chaîne et également à nos réseaux sociaux GAC Group. À très bientôt pour un nouvel épisode.